qu'est-ce que le silence? Le silence en tant que tel? Est-ce qu'on peut vraiment vivre dans un milieu inaudible ou est-ce que c'est vraiment la présence du son ou c'est notre perception et notre conscience qui font en sorte qu'on n'entend pas certains sons? C'est un peu philosophique comme question.
Oui, allô?
Oui, c'est Olivier.
Ok, j'arrive.
Merci.
Je m'appelle Hector. Je suis un étudiant mexicain qui fait un stage ici à Brahms. Je travaille sur trois projets. Un de ces projets, c'est sur le rythme et la métrique des chansons. On essaye de voir comment est-ce que le cerveau codifie le rythme et comment est-ce qu'on l'aperçoit.
Et ici, c'est le II du La.
Si tu veux enregistrer des choses maintenant, il n'y a pas de souci. Pendant l'expérience, ça va être plus embêtant. Je suis médecin, je fais une résidence en neurologie et un doctorat en co-tutelle en sciences médicales et en psychologie. En Belgique et ici à Montréal. Je m'intéresse à la manière dont deux régions du cerveau différentes peuvent interagir entre elles et surtout s'influencer l'une l'autre. C'est ce qui permet par exemple de danser quand on écoute de la musique, on se synchronise. Mais il n'y a pas que la synchronisation qui rentre en jeu, il y a aussi la manière dont les mouvements vont influencer la perception. Quand on danse, on perçoit la musique différemment que si on ne bouge pas. Et aussi, si on fait un mouvement et puis qu'il n'y a pas de musique ou qu'il n'y a pas de son, le mouvement ne va pas être le même. Donc je m'intéresse à la manière dont ces deux régions-là du cerveau peuvent s'influencer mutuellement. Ce sont des questions qui sont peut-être fondamentales de la manière dont je les aborde, mais qui peuvent avoir des applications cliniques vraiment intéressantes, comme aider quelqu'un à marcher.
Alors on peut s'installer maintenant. Donc, je t'ai demandé de te mettre sur la chaise ici.
Ok. Il faut que ça soit confortable, que ça ne tire pas. Ça ira. Ça va. Donc il y a 64 électrodes qui sont réparties sur l'entièreté du scalp. Et donc on enregistre bien l'activité corticale avec ça.
Bonjour.
Pendant l'expérience, il faut bouger le moins possible parce que sinon ça provoque des artefacts. Par exemple, le simple fait de serrer la mâchoire, de serrer les dents. Ça va faire un artefact assez terrible qui fait qu'on voit plus, on n'arrive plus à voir et à analyser ce qu'on veut. Donc pendant l'enregistrement, il faut vraiment rester le plus détendu possible. te demander de tenir juste ici, de manière à ce que ça ne bouge pas. Merci.
Et une fois que je serai à l'intérieur de la pièce insonorisée,
oui.
Est-ce qu'on est en contact est-ce que je t'entends par exemple est-ce que tu vas me parler
Alors, je vais peut-être commencer par un briefing au niveau des artefacts et donc de comment est-ce qu'il faut que les choses se déroulent pour que ce soit optimal. Donc il faut éviter qu'il y ait des yeux, il ne faut surtout pas fermer les yeux. Quand on ferme les yeux, le cerveau passe dans un stade de relaxation et ça change très fort le signal. Alors après, comment ça va se passer? Donc c'est en 4 blocs, chaque bloc est en fait une répétition d'une tâche et la tâche dure 40 secondes. Qu'est-ce que ça va être comme tâche? Donc il y a un son synthétique avec un certain rythme. Et il peut y avoir des accélérations du tempo, des accélérations ponctuelles. Il y aura des accélérations, il faut essayer de les détecter. Restez bien concentré sur le son. Est-ce que c'est clair?
Mmh. Est-ce que c'est moi qui lance les boucles?
Oui. Oui.
Ok.
Pour percevoir un son, il faut d'abord avoir une onde sonore. Une onde sonore. C'est un déplacement de couche d'air. L'air est composé de particules. Ces particules-là vont entrer en collision. Cette collision-là de particules d'air va se rendre dans votre conduit auditif. Ils vont ensuite aller frapper le tympan. Le tympan va vibrer comme un tambour. Cette vibration-là va être transmise à vos osselets, qui sont des petits os qui se rendent jusqu'à l'oreille interne.
L'oreille interne est composée de liquide. Ce déplacement de liquide va faire bouger des cellules sensorielles dans l'oreille.
Qui, elles, vont transmettre de l'électricité à vos cellules nerveuses. Vos cellules nerveuses vont ensuite transférer cette électricité
de votre cochlée
jusqu'à votre cerveau.
Et c'est comme ça que vous allez percevoir un son. Je sais pas si je suis clair. C'est difficile sans dessin. Tu veux-tu que je me réessaye? Je suis audiologiste et étudiant à l'Université de Montréal. Je fais ma thèse sur les acouphènes et l'hypersensibilité auditive.
Alors, les décharges électriques des neurones. C'est dur à faire à la bouche, hein. Prends la somme de l'activité neuronale de tout un cerveau, effectivement, c'est peut-être un truc qui fait bruit d'un frigo. Oui. Ou d'un néon qui s'allume et s'éteint. Ou de plein de néons qui s'allumeraient et s'éteindraient, comme dans un film de David Lynch. Oui.
Je dirais que le pulse cérébral, si je le fais à des sons, je crois que ce serait comme un... Je sais pas. Parce que je vois le cerveau comme un... Beaucoup de choses qui travaillent ensemble et ce sont des messages qui sont en train de glisser partout.
Si je vais me coller la tête sur ton cerveau, je l'entendrai pas. Est-ce qu'il y aurait un moyen d'amplifier le son généré par les ondes pour par la suite l'entendre? Peut-être. Qu'est-ce que serait qu'un son que... Tu veux que je te produise un son qui ressemble à ça? Wow. Comment on pourrait... probablement quelque chose de très bruité, là. Quelque chose de très, très, très bruité. Thank you.
pendant une chirurgie, on peut avoir directement accès au cerveau et il ne produit pas de son, donc ça c'est clair qu'il est inaudible. Par contre, le son, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des ondes, et le cerveau fonctionne avec des ondes. Il fonctionne simplement avec des ondes qui ne sont pas pneumatiques, donc ce n'est pas de l'acoustique, ce sont des ondes électriques qu'on peut enregistrer. Et donc, cette onde-là, évidemment, c'est une fréquence qui n'est pas du domaine audible, qui sont du type 1, 2 Hz, quelque chose comme ça. Mais par contre, du coup, à quoi ça peut correspondre au niveau audio ? Ça peut correspondre à une enveloppe. Donc, ce que tu as besoin d'une fréquence porteuse. Donc, par exemple, ici, moi, ce que je fais, c'est que je prends du 220 Hz, ce qui correspond à cette espèce de là. Hein. Et donc, j'ai une fréquence porteuse que je module avec ton amplitude. Et donc, tu vas avoir quelque chose qui fait... Ça donne une représentation auditive des ondes qui sont provoquées quand on entend un son.
Désolé.
Chambre anéchoïque.
N'est pas disponible.
C'est un peu obscur, on pourrait dire ça. Il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est silencieux, rien. Il n'y a pas de résonance. C'est isolé. C'est joli ici, c'est beau. Je trouve ça beau.
Donc là, on est dans une salle... censée être très silencieuse. Si on s'y installe à un moment dans le câble, on se rend compte que le silence n'existe pas juste subjectivement de notre point de vue, puisqu'on entend notre corps. Moi, j'entends personnellement mes acouphènes, donc le silence, on l'oublie. Et voilà.
Hop. Là, je pense que si je le mets là, ça va être pas mal.
Je travaille sur la plasticité en localisation auditive. Donc la localisation auditive, c'est notre aptitude à savoir d'où proviennent les sons. Et la plasticité, c'est la capacité du cerveau à s'adapter à des contraintes. Pour mieux expliquer, je peux parler déjà des autres indices, donc ceux qui nous permettent de localiser sur le plan horizontal. Pour ça, on se sert de nos deux oreilles. Donc c'est pour ça qu'on appelle ça des indices binauraux.
Je vais les mettre dans les oreilles. Okay. Oh merde, j'ai perdu le truc.
Il y a deux indices de binauraux. Il y a les différences interorales de niveau, donc les différences d'intensité en fait qu'il y a d'une oreille à l'autre, et les différences interorales de temps, donc la différence de temps qu'un son aura mis pour toucher une oreille puis l'autre. De ces deux indices-là, on peut déduire la position horizontale des sons, donc s'ils sont plus ou moins à gauche, plus ou moins à droite. Mais ça ne nous permet pas de localiser les sons complètement en 3D. Pour arriver à déterminer ça, il nous faut ce troisième indice, les indices monauraux cette fois-ci, et ça repose essentiellement sur la forme de l'oreille.
Tiens, je ne sais pas si tu as une main pour prendre ça. Je pense que quand tu appuies là, c'est bon, ça commence la tâche. Donc je te laisse te débrouiller.
D'accord.
Si vous échangez vos oreilles avec votre voisin, en fait, vous serez plus capable de savoir précisément d'où proviennent les sons parce que vous avez appris ça avec votre oreille qui filtre les sons d'une certaine manière. Si on vous met les oreilles de quelqu'un d'autre, la forme sera différente, donc le filtrage est différent, et donc vous ne saurez plus d'où proviennent les sons. C'est un peu ce qu'on fait avec notre expérience, on n'échange pas les oreilles, si on pouvait on le ferait, mais éthiquement ça c'est pas passé. Donc on remet juste un peu de silicone dans l'oreille, ce qui va modifier la forme et effectivement perturber les participants.
Tu m'entends ?
Ouais.
Ah ouais, ok.
Ok, tu peux enregistrer la position de ta tête. C'est bon.
Si je te mets dans une chambre complètement insonorisée, on se rend compte que l'humain est une machine à bruit. Ta respiration va être forte, ta circulation sanguine, tes clignements d'yeux, ton rythme cardiaque. Tu vas entendre tous tes bruits, donc qu'est-ce que le silence? C'est un peu philosophique comme question. Si tu veux que je fasse un parallèle avec l'acouphène, probablement que ce que les gens entendent quand ils ont un acouphène, c'est l'activité neurale qui est mal interprétée. Les chercheurs cherchent en ce moment où on pourrait retrouver de l'activité neurale spontanée qui pourrait correspondre au son de l'acouphène que les gens entendent. Comme l'acouphène, c'est une perception qui est interne à la personne, pour pouvoir la décrire, on se base beaucoup sur notre expérience. Il y a une étude super intéressante qui a démontré que les gens qui vivent sur les plaines aux États-Unis vont rapporter beaucoup d'acouphènes qui vont ressembler à des grillons, qui vont ressembler au bruit du vent. Les gens qui vivent proche de l'eau, eux vont rapporter beaucoup que c'est le bruit de l'océan qu'ils entendent dans leur acouphène. Donc, c'est difficile de vraiment être capable de savoir quels sons ils entendent parce qu'il y a notre subjectivité puis notre expérience qui entre en jeu. Où on vit, quelle expérience culturelle on va avoir vécu, va influencer le type d'acouphène qu'on va rapporter. Mais ça ne veut pas dire nécessairement que les acouphènes sont différents des gens qui vivent sur la plaine, des gens qui vivent proche de l'océan. Mais c'est teinté de notre expérience culturelle.